بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. Toute louange revient à Allah Rabbul Izza qui nous donne la possibilité de consacrer un peu de notre temps pendant ce confinement pour étudier quelques versets de la sourate Al-Muzzammil. Nous avons vu jusqu'à maintenant les quatre premiers versets où Allah Rabbul Izzah rappelle au prophète alayhi salat wa salam l'importance de la prière de la nuit et le fait de passer une partie de la nuit dans l'accomplissement de la sourate de Tahajjud. Et on avait rappelé qu'il est important de s'imprégner de ces versets et de cette action à quelques jours, à une dizaine de jours du début du mois béni de Ramadan. Il est important durant ces derniers jours de Sha'ban de s'habituer progressivement à passer un peu plus de temps la nuit afin que dès la nuit, la veille, enfin la première nuit, Laylat Ramadan, le premier Ramadan, nous sommes déjà prêts psychologiquement et surtout spirituellement pour passer une partie de la nuit en qiyam, en adoration. Le verset qu'on a lu, qu'on vient de lire, Inna sanulqi alayka qawlan thaqila, nous allons te révéler des paroles lourdes, très importantes. Ibn Kathir, rahimahullah, dans son tafsir, relate le tafsir de Al-Hassan al-Basri et de Qatada, radiallahu anhuma, qui. Il donne deux tafsirs, deux avis. Ay al-amalu bihi. Il dit que quand Allah Rabbul Izza parle de paroles très lourdes, ils vont plus dans un sens, on va dire le sens figuré, des paroles lourdes, c'est-à-dire al-amalu bihi. La lourdeur, entre guillemets, le poids de ces paroles, c'est la pratique qui va en découler. Et al-mas'ouliya, la responsabilité. Al-amana, le fait d'en être digne et d'être capable de mettre en application le contenu des versets, les ordres divins et le fait de respecter ces interdits à chaque fois que les versets vont être révélés. Je rappelle qu'on est dans la période Makki, à Makkatul Mukarrama, on est au tout début de la révélation. Donc à chaque fois que le prophète alayhi salatu wassalam va recevoir des versets, il lui sera demandé donc de les mettre en application et de les enseigner à ses compagnons. Et on connaît l'histoire de ce jeune homme qui, Al-Arqam ibn al-Arqam, qui avait donné sa maison pour que le prophète puisse se réunir régulièrement avec les sahaba afin qu'il les enseigne la révélation. Enseigner la révélation, c'était mettre au courant les sahaba des derniers versets afin qu'ils l'écoutent, le lisent, le mémorisent, mais également pour que leur foi se complète jour après jour conformément aux attentes d'Allah Azza wa Jal, conformément à ce qu'Allah a révélé chaque jour. Donc Al-Hassan et Qatada, ils vont vers un sens plus, vers le sens figuré des paroles lourdes par rapport à la responsabilité, par rapport à l'engagement et le fait que le croyant qui reçoit ces versets, qui prend connaissance de ces versets, qui connaît le contenu de ces versets, qui les lit, qui les maîtrise, donc doit les mettre en application. Donc c'est un enseignement qui est lourd, lourd en responsabilité, mais avec un débouché exceptionnel auprès d'Allah, si la personne a pu rythmer sa vie en fonction des ordres et des interdits divins. Et on va revenir sur ce point parce qu'il y a nécessité de le développer. On va avant tout voir le deuxième tafsir, et c'est un tafsir qui est, on va dire, qui met en avant le sens propre de thaqila, de paroles lourdes. Déjà même de la traduction, la traduction officielle, on parle de paroles lourdes, et ensuite le mutarjim, le traducteur, écrit en parenthèse très important. On voit bien que dans la traduction même, on parle de lourd, et l'auteur Il fait, on va dire, dans sa traduction même, il précise que l'oie de le sens de d'important. Alors, la vie, on va dire que le plus simple à comprendre quand on parle de paroles qui sont lourdes, ça se réfère à quelques hadiths très connus qui décrivent la situation du prophète alayhi wa salam lorsqu'il recevait la révélation. Parce que lorsque l'ange Jibril alayhi salam se présentait à lui, ça pouvait être sous la forme d'un être humain ou Jibril alayhi était invisible et que le prophète alayhi était entouré de ses compagnons, les sahaba, ridwanullahi alayhim, ils savaient exactement quand est-ce que le prophète alayhi recevait la révélation parce que son état changeait totalement physiquement, car le prophète alayhi devait assumer, et là on est au sens propre, il devait supporter le poids au sens propre des versets qui étaient très lourds. On va étudier quelques textes et puis écarter directement l'avis de ce qu'on appelle les mustachriqines, les orientalistes. Alors tout d'abord, on procède dans l'ordre. On a le hadith de Zayd ibn Thabit, radiallahu anhu, qui était très proche du prophète, alayhi salatu wa salam. Il dit que « Unzila ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa fakhiduhu ala fakhidi » Il a akhir le hadith, il dit que le prophète alayhi salatu wassalam était assis à côté de moi et une partie de sa jambe se reposait sur la mienne. Et il explique que lorsque la révélation descendait, sa jambe appuyait tellement fort sur sa jambe à lui, Zayd ibn Thabit, qu'il comprenait immédiatement que ce poids réel, c'était la révélation qui pesait sur le prophète alayhi salatu wassalam. Hadith de Aïcha radiallahu anha. Il est important, les deux prochains hadiths sont de Aïcha radiallahu anha, car c'était elle qui était le plus proche du prophète alayhi salatu wassalam. Aïcha radiallahu anha relate: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحِي فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ. Je voyais le prophète alayhi salatu wassalam recevoir la révélation alors qu'on était en plein hiver, parenthèse, dans la péninsule arabe, à Mecca, à Medina, en hiver il fait extrêmement froid. La température peut descendre jusqu'à 0, 2, 3, 4 degrés en plein hiver. Donc c'était juste pour qu'on se resitue dans le contexte. Aïcha dit qu'en plein hiver, je voyais le prophète alayhi salatu wassalam recevoir, je savais qu'il recevait les versets parce qu'il se mettait à transpirer abondamment tellement ces paroles étaient lourdes lorsque l'ange Jibril alayhi salam déposait les versets et les remettait au prophète alayhi salatu wassalam. Troisième hadith, toujours de Aisha radiallahu anha, qui dit: in kana la yuha ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa ala rahilatihi ila akhir al hadith. Elle relate que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam était sur sa monture et que la révélation descendait, l'animal qui le portait avait du mal à rester debout, il était figé. Fama, on a un autre texte, Fama tastati'u an tataharraka. L'animal ne pouvait même plus se déplacer tellement le poids des versets était réel. On parle d'un poids réel qui descendait sur le prophète alayhi salatu wassalam. Voilà donc un des tafsirs les plus connus concernant qawlan thaqila. Mais ce qui nous intéresse au-delà du sens, et vous savez, pour un verset, il peut y avoir plusieurs tafsirs. Et les deux avis sont totalement acceptables et plausibles. Donc là, c'est le cas. On a au sens propre des paroles qui sont lourdes, comme on vient de le détailler. Et au sens figuré, c'est le premier tafsir de Qatada et de Al-Hassan. Paroles lourdes, c'est-à-dire extrêmement important. Et on a rappelé le amana, la responsabilité. Le prophète alayhi salatu wassalam avait reçu l'ordre d'Allah: Ya ayyuha rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik. Ô prophète d'Allah, propage. Ô prophète d'Allah, propage, au sens du verset, tout ce qu'Allah t'a révélé. Et ainsi, ça c'est, on va dire, c'est un des points, une des mas'oul, il y a une responsabilité du croyant qui a un rapport avec le Coran. Ça concerne bien sûr Imam al-Mursalin, le prophète d'Allah alayhi salatu wassalam, qui recevait la révélation et qui devait donc le comprendre, le mettre en application lui-même et le transmettre. Mais ça concerne également chaque personne qui reçoit le moindre verset. Moi, Hafiz al-Qur'an, qui mémorise, j'ai une responsabilité. Moi, qui ne mémorise peut-être pas le Qur'an en entier, mais qui connaît Yassine, Tabarak al-Ladhi, la majorité des sourates du Juz Amma, qui connaît la sourate Kahf, Al-Waqi'a, et ainsi de suite, j'ai une responsabilité. Même si je ne connais rien de tous ces chapitres, je ne connais que les 10 derniers chapitres du Qur'an, de Alam Tara jusqu'à An-Nas, il y a une part de responsabilité sur mes épaules. Comprendre ces versets, il ne suffit pas de les lire. Ikhwani fillah, akhawati fillah, c'est un message qu'on véhicule tout le temps, mais principalement depuis qu'on étudie le tafsir de Sourate Al-Muzzammil, le Coran, la relation du croyant avec le Coran ne se limite pas à at-tilawa, à la simple lecture. Il y a la lecture, il y a le travail de compréhension, de déchiffrage du sens des versets, le retour vers les savants, vers les ouvrages de tafsir, la mise en pratique, la mise en application, et ce n'est pas une mise en application périodique, non, c'est une mise en application de façon permanente de notre vie, c'est-à-dire vivre au rythme du Coran. Quand on avait demandé à Aïcha radhiyallahu anha comment était le comportement du prophète alayhi salat wa salam, avait répondu d'une hadith qui est célèbre, kana khuluquhu al-Quran. Son comportement c'était le Coran, c'est-à-dire dans toutes les situations, qu'il soit chez lui, auprès de sa famille, à l'extérieur, qu'il soit pris dans son commerce, qu'il dirige le monde musulman, qu'il soit avec ses compagnons, qu'il soit avec ses proches et ainsi de suite, qu'il soit seul, le mu'min vit au rythme des versets du Coran et les met en application. Et il n'y a pas une période où entre guillemets, on se déconnecte du Coran, où on se consacre uniquement au dunya et on suit son nafs, abadan wallah. Donc la relation du croyant avec le Coran doit vraiment dépasser le stade de la lecture. Et justement, on parle de responsabilité. Et là, je m'adresse encore une fois, comme on avait fait la semaine dernière, à tous ces jeunes, mashallah, frères et sœurs, ou même les anciens, qui ont eu cette chance et cet honneur de la part d'Allah Rabbul Izzah, de porter le Coran de leur cœur, ikhwani, akhawati fillah, il ne suffit pas de maîtriser la lecture, de réviser les versets, d'enchaîner les ajza et les sipara, nous, comme on dit, et de les lire correctement dans la salat, wallah, ce n'est pas suffisant. Nous voyons bien que la lecture du Coran dans la salat de Tarawih n'est pas le but, ce n'est pas une finalité. Nous voyons bien que ce mois de Ramadan commence dans une situation un peu difficile, peut-être unique dans l'histoire, dans notre histoire, à nous en tout cas, où difficilement, on pourra difficilement accomplir la salat de Tarawih, à moins qu'on le fasse seul ou avec nos enfants et qu'on connaisse le Coran par cœur. Ça veut bien dire que si dans l'humanité, il n'y a personne qui officie la salat de Tarawih, je veux dire en lisant l'intégralité, en faisant Akhatmul Quran Kamilan, ben cela ne diminue en rien la beauté et le côté miraculeux du Coran. C'est-à-dire, le lire dans la salat, ce n'est pas l'objectif ultime. C'est un des objectifs, mais ce n'est pas l'objectif ultime. Le plus important, et je ne dis pas le plus important, mais l'objectif ultime, complet, c'est Al-Amalu Bihi, le mettre en application. Ainsi, quand je connais le Coran par cœur ou quand je connais quelques passages du Coran, je ne dois jamais oublier que j'ai et je porte dans mon cœur un enseignement puissant et je dois le mettre en application. Je connais, je maîtrise des versets qui parlent de al-khushu, la dévotion, la soumission du cœur envers Allah Azzawajal, al-ikhlas, la sincérité, l'amour d'Allah, la crainte de Dieu, le muraqabatullah, la pensée permanente d'Allah qui mène donc vers la piété, la taqwa. Je maîtrise des versets qui parlent de la istiqama, inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, la fermeté dans les bonnes œuvres et dans l'éloignement du haram. Je porte dans mon cœur et sur mes épaules, là on a parlé des actions en rapport avec a'malul quloub, des actions intérieures, des versets maintenant concernant les actes d'adoration, la prière. Les 5 prières, ne jamais les rater. Mais également, alladhina qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. La dévotion, la concentration dans les prières, l'aumône, la générosité envers les gens, envers les proches, envers les personnes éloignées, al-birr wa s-sila, le fait d'avoir de bonnes relations avec ses proches et en priorité les parents. Et maintenant, on parle des interdits. Quand je connais le Coran, soit en entier, je répète, ou quelques passages, ça veut dire que dans mon cœur, je porte des versets qui mentionnent l'interdiction de beaucoup de péchés. Le shirk, bien sûr, le kufr, bien sûr, l'innovation, les bid'a, le riba, le recours à l'intérêt, le zina, l'adultère, la fornication, sariqa, le vol, shahadatu zur, les attestations erronées, ainsi de suite. C'est-à-dire que quand je maîtrise, je connais le Coran, je le répète, ce n'est pas suffisant de maîtriser sa lecture tilawatan, je me dois d'aller à la recherche de chaque verset et de comprendre le sens et de le mettre en application. Ainsi, la mission du hafid al-Qur'an ou de celui qui yahfadhu ba'da ayati, qui connaît quelques versets, sa mission ne s'arrêtera jamais jusqu'à la mort. Et tant qu'il y a le souffle de vie, ce croyant se doit d'approfondir sa connaissance du Qur'an. Nous vivons, et là je parle de ce que je connais, de ce que je constate autour de moi, à La Réunion, nous avons un schéma beaucoup trop simpliste de la religion. Et nous avons on va dire, on a une idée, on se fait une idée de l'élite spirituelle. Pour nous, l'élite spirituelle, c'est celui qui a pris le Coran par cœur, le hafid al Coran, et qui, en plus, idéalement, et ce serait le top, on va dire, spirituellement, qui a fait des études et qui est devenu Ali, Mufti, ou peu importe, Fundi, comme on l'appelle, Cheikh, peu importe la façon de l'appeler. On va se limiter à ça. Il connaît le Coran par cœur, il a la connaissance, et ainsi de suite. Alors que, vous savez, Ikhwani, Akhawati Fillah, ce n'est pas parce que nous connaissons quelque chose ou que nous avons une maîtrise d'un domaine de la religion que cela fait de nous quelqu'un de particulier. Certes, ceux qui mémorisent le Coran auront tel grade, tel honneur le jour de Qiyama, on connaît les hadiths et les parents seront fiers, oui, mais à condition que la personne soit un véritable hafid al Coran. Pareil pour le savant, le alim. On peut avoir la connaissance religieuse, mais si notre cœur est rempli de jalousie, de mauvaises pensées, et que nos actions ne sont pas en conformité avec notre connaissance religieuse, c'est quelque chose d'extérieur que nous avons sur nous, c'est comme des habits de lumière, mais en finalité, c'est quelque chose qui va nous détruire le jour du Qiyam. Quand le prophète alayhi salatu wassalam nous rappelle le Coran soit il avec toi, il témoigne en ta faveur le jour de Qiyama, ou alors le Coran va te détruire le jour de Qiyama, dans le sens où le Coran va témoigner contre toi et rappeler que tu le portais dans son cœur, mais à aucun moment le croyant l'a mis en application, l'a mis en pratique. Pareil pour le savant, plus on a la connaissance religieuse, que ce soit un cursus complet qu'on a fait, 6 ans, 7 ans, 10 ans, 12 ans, ou alors une personne a appris quelques versets, comme nous on apprend des versets régulièrement de tafsir et hadith, et qu'on essaie d'enseigner, ceux qui écoutent et qui emmagasinent cette connaissance, qui écoutent les audios et qui écoutent tous les savants qui parlent de différents points de la religion, c'est des connaissances cumulées. Et donc ce sont des hujja, la personne se doit maintenant de les mettre en pratique, en application, et c'est là la marge de progression spirituelle que nous avons toute notre vie. C'est pas, et je reviens vers ce schéma où pour nous, ben, le hafidh al-Qur'an, le alim, c'est le top, et notre schéma, nous, quand on se regarde, si on n'a pas autant de faveurs spirituelles concernant le hafidh al-Qur'an ou la connaissance religieuse, ben, le mois de Ramadan, c'est le mois où je vais exceller dans les bonnes œuvres. Quand c'est la période de Eid ou l'Adha, je vais acheter un animal, le sacrifier. Quand ce sera le Hajj, je vais faire le pèlerinage, ainsi de suite. C'est-à-dire que c'est comme si que notre relation avec Allah, Rabbul Izza, était une relation périodique basée sur certains événements importants. Certes, ces événements importants, il faut les vivre et se donner au maximum, bien sûr, mais au-delà de ça, c'est une relation permanente avec Allah et une marge de progression spirituelle qui est permanente que nous devons travailler, c'est notre connaissance des versets du Coran pour les mettre en application au quotidien et devenir meilleur, progresser dans notre relation avec Allah, dans notre relation avec Dieu, en accomplissant les bonnes actions et en restant éloigné des péchés et en travaillant son intérieur. Tous les a'mal al-qulub, les actions du cœur, qui fait que nous ne serons jamais des munafiqin, des hypocrites. Parce que si une personne travaille uniquement les actions extérieures, la prière, la lecture du Coran, et que les gens disent que ouais, c'est quelqu'un d'exceptionnel qui a un niveau de pratique impressionnant, et ainsi de suite, mais qu'intérieurement, malgré la connaissance religieuse que j'ai, la maîtrise du Coran qui est, mashallah, dans mon cœur, mais si je suis rempli de jalousie, d'hypocrisie, et que je n'hésite pas à comploter contre les gens, à colporter de fausses nouvelles, à avoir de mauvaises pensées, ainsi de suite, ça fait de moi un hypocrite, ça fait de moi un munafiq, et qu'Allah nous protège. Ça veut dire qu'il faut, à un moment donné, il faut tirer la sonnette d'alarme et réaliser qu'on a encore du travail, énormément de travail à faire pour améliorer notre relation avec Allah, et personne ne peut penser à un moment donné qu'il a atteint l'objectif. Ou juger une personne, dire que lui c'est quelqu'un de bien, en qui on peut avoir. On peut faire confiance aux gens, mais ne jamais sacraliser qui que ce soit et considérer que lui c'est le meilleur. Alors bien sûr, nous devons avoir des référents parmi nos ulama, nos savants, mais ce qui importe, c'est mettre en pratique ce qu'il propage, ce qu'il prêche. Même moi, ce que je suis en train de vous essayer de véhiculer comme message, le but, c'est essayer de le mettre en pratique. Maintenant, imaginez qu'une personne me voit, moi, ou un autre savant, peu importe, dans une situation contraire à l'enseignement, une situation de péché, parce que personne n'est parfait, mais en aucun cas, je dois analyser les erreurs de ces personnes et les valider, considérer que si plus savant que moi a fait telle chose, donc ça veut dire que c'est bon. Aucunement. Il y a que c'est une relation avec Allah qui va transiter par la compréhension des versets et la connaissance qu'on obtient auprès des savants, mais en finalité, nous cherchons l'objectif à atteindre et non pas l'apparence que nous allons voir chez les gens. Donc voilà un peu le qawl thaqil. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Lourd, parce que c'était un réel poids sur le prophète lorsqu'il recevait les versets, mais également lourd en application, en mas'oulia, en responsabilité, en amana, en termes d'engagement, et cet engagement, nous le portons à notre tour, sur nos épaules, et nous devons le transmettre également à nos enfants. Hada. Le verset suivant, Inna nashi'at al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Donc là, après avoir parlé de la révélation, Allah Rabbul Izzah revient, subhanallah, dans le verset 6 et 7. Et 8, 6, 7 et 8, Allah Rabbul Izzah revient sur l'importance de la prière de la nuit. Nous lisons la traduction donc de ces versets. La prière pendant la nuit est plus efficace et plus propice pour la récitation. Tu as, dans la journée, à vaquer à de longues occupations. Et rappelle-toi le nom de ton Seigneur et consacre-toi totalement à lui. À Saadi Rahimahullah explique ce verset en rappelant que Allah Rabbul Izza rappelle au prophète alayhi salat wa sallam une réalité, c'est que les jours de Bani Adam, de l'être humain, sont divisés en deux parties, il y a la journée et la nuit, et Allah rappelle donc cette réalité qui est propre à sa sunnah, à l'organisation du dunya et à la responsabilité qu'Allah a accordée à chaque être humain en termes de recherche de sa subsistance, par rapport à la responsabilité envers leurs proches, leur famille, ainsi de suite. Allah a décrété que dans la journée, l'homme se doit de s'occuper des asbab pour obtenir sa subsistance et pour s'acquitter donc de ses responsabilités dunyawi, en rapport avec ce dunya. Et ainsi, Allah demande au prophète alayhi salatu wassalam, et la demande qu'Allah formule au prophète alayhi salatu wassalam est valable pour les sahaba et pour toutes les personnes qui reçoivent ce verset. Allah demande, Allah rappelle que durant la matinée, l'homme est pris par ses occupations, mais wadhkurisma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila, mais que c'est durant la nuit, nashi'at al-layl, c'est durant la nuit que l'homme se doit de se consacrer totalement et entièrement à Allah Rabbul Izzah. Là, du coup, on a enchaîné vers le verset suivant. Si je reprends dans l'ordre chronologique, hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila, Ibn Kathir dit, là on revient à Ibn Kathir, ajma'u lil khatiri fi ada'i al-qira'ati wa tafahumiha min qiyam an-nahar, dit que les prières accomplies durant la nuit, la dévotion que l'homme, que le mu'min va trouver le soir dans ses prières, dans ses invocations, dans son retour vers Dieu, sera beaucoup plus intense que les mêmes actions qu'il va accomplir en matinée. Et Ibn Kathir dit, et pourquoi la matinée, elle est moins propice à cela? Parce que c'est le moment où les gens sont plus présents dans la ville, dans les rues, et que les gens sont pris par leurs occupations. Ainsi, la présence du cœur ne sera pas à 100%. Ça ne veut pas dire que le matin, on se consacre uniquement au dunya et qu'on ne pense pas à Allah, aucunement. Autant qu'on peut faire les adhkars et bien sûr rester ferme dans les hudouds d'Allah, dans les limites qu'Allah a fixées, c'est notre devoir, notre responsabilité. Mais en termes de concentration et de présence de cœur maximum, ça ne peut pas se produire dans la journée. Et là, on revient, on a dit confusion entre les deux tafsirs, et là, on revient vers le premier tafsir qu'on a cité de Sa'di, rahimahullah. Et il enchaîne avec Watabattal, il est établi là, consacre-toi uniquement à ton Seigneur. C'est durant la prière de la nuit. Yaqulu inqati' ilallahi ta'ala. Coupe-toi totalement du monde et remets-toi à ton Seigneur le soir, quand tu te réveilles. Et reviens vers lui. Wahual infisalu bil qalbi anil khala'iq. La nuit, c'est le moment propice où le cœur de l'homme va se détacher premièrement de ses préoccupations et de n'importe quelle autre créature. Et ce cœur va se parer des qualités propres aux mu'mines et des qualités les plus profondes. C'est l'amour d'Allah qui va vraiment prendre place dans le cœur du croyant lorsqu'il se réveille la nuit et qu'il va accomplir le tahajjud, le qiyamul layl. Et d'autres mufassirs disent également pourquoi la prière de la nuit est vraiment le moment propice pour développer ses qualités intérieures. Les savants disent qu'à partir du moment où il y a un mujahada, il y a un sacrifice, et justement se lever à 2 heures, 3 heures du matin, c'est un sacrifice. À partir du moment où une action en amont, elle est, mashallah, elle est embellie par la sincérité, et qu'il y a le mujahada, un sacrifice qui est fait, c'est une action qui va porter ses fruits. Et l'homme trouvera le halawatul iman, la douceur de la foi, à travers cette action, parce qu'il y a ikhlas, présence de cœur, et il y a un sacrifice qui est accompli. Et tout ça, on peut l'obtenir par la prière de la nuit et une lecture du Coran. Et là, on revient vers les premiers versets de la sourate Al-Muzammil, une lecture méthodologique, appliquée, concentrée avec dévotion, une lecture réfléchie, verset par verset du Coran dans la prière de la nuit. C'est vraiment on pourrait dire, un boost, excusez-moi, un boost spirituel exceptionnel où le mu'min va trouver vraiment une relation profonde avec son Seigneur, relation qu'il ne pourra pas trouver en matinée, dans la journée, parce que le cœur est pris par d'autres choses. Et Allah Azza wa Jal veut que l'homme, à un moment, se détache totalement de tout ce qui le perturbe ou qui peut l'attirer vers d'autres pensées pour se consacrer uniquement à son Seigneur. C'est un moment important, primordial, qui est, subhanallah, qui va vraiment construire la spiritualité du croyant et créer un lien profond et réel avec Allah Azza wa Jal. Et on le répète, cela transite obligatoirement par le temps passé de le qiyamul layl dans la prière de la nuit. Et pour ça, je relis donc ces versets. La prière pendant la nuit est plus efficace et plus propice pour la récitation. Et ça rejoint on va dire que le ma'ani, l'essence des premiers versets de la sourate Al-Muzammil. Il me fascine également, et là on revient à Ibn Kathir, il dit Hua Ashaddu. Oui, et il dit que cette prière de la nuit et les efforts que le mu'min va faire en se réveillant le permettra de trouver une connexion bain al-qalbi wal-lisan, et la connexion entre le cœur et la langue. Et c'est extrêmement important, ikhwan et khawati fillah. La concentration, c'est lorsque le corps, le cœur, et quand on dit le cœur, c'est-à-dire la pensée, ben, ils vont dans le même sens. Que le cœur pense à Allah et que le gestuel va dans le même sens. Différence entre une prière de dhuhr ou de asr, quand on a tiré un peu de temps pour, mashallah, quitter son bureau ou son travail pour prier, et la prière de tahajjud. Nous restons des êtres humains. Si on quitte son travail un instant pour prier, il est normal que pendant la salat, ben, nous continuons peut-être à penser à certaines choses, à essayer de de réfléchir à quelques problématiques qu'on doit régler, ainsi de suite. C'est malheureusement la faiblesse, enfin, malheureusement, c'est la faiblesse humaine. Alors que la prière de la nuit, déjà l'homme, après 3 ou 4 heures de repos, de sommeil, il se réveille, il a l'esprit apaisé. Et cet esprit-là va se concentrer et va s'orienter, ce cœur va s'orienter directement vers Allah. Et donc, on a espoir que dans cette prière de la nuit, il n'y aura aucune waswasa, aucune insufflation de shaitan et aucune pensée qui va parasiter la relation du cœur du croyant avec Allah Azza wa Jal. On va s'arrêter à la pensée ce soir en espérant que ces deux tafsirs nous ont permis à Saadi et Ibn Kathir de comprendre l'importance de la concentration dans la prière, de la dévotion et justement la recette miracle pour réunir cette dévotion, cette concentration. Parce que souvent on se pose la question, oui, mais on parle de khushu, mais comment trouver cette concentration? Et voilà la recette miraculeuse, ce qui est applicable et qui est accessible à tout le monde, c'est de faire des efforts pour la prière de la nuit et de lire dans le Qiyam al-Layl des versets du Coran qu'on aura en amont étudié et compris le sens afin qu'on trouve la dévotion et la concentration, que le cœur s'imprègne du sens des versets et que les membres du corps restent immobiles, quitte à rester longtemps en ruku ou en sujoud, mais que vraiment il y a une présence de cœur dans les prières. C'est vraiment l'idéal, c'est vraiment le summum de la spiritualité, qu'Allah nous donne la possibilité de les vivre. Et même si les premiers jours de Ramadan ne pourront pas nous rendre au masajid, et Allah est capable de tout, de changer de changer complètement la situation, même si ce sont des prières que nous allons accomplir au début chez nous, mais qu'Allah nous donne en cadeau, on va dire presque en compensation, une présence de cœur et une concentration qui nous permettra de progresser par ces prières. Tawfiqi illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khair.